1914, la guerre de mouvement. Les Français et les Allemands croyaient à une guerre courte et joyeuse. Dès la fin de 1914, ils pressentent que sa durée ne peut plus s'évaluer en mois. Ce n'est pas parce que l'armée française est entrée dans Mulhouse, d'ailleurs rapidement reprise par les Allemands, que l'Alsace est libérée. Après la guerre de mouvement où les ennemis cherchent à se déborder, viendra la longue guerre de position. Le plan 17 de Joffre en échec. Joffre ne l'avait pas prévu, ou du moins, il avait pensé que les Allemands n'oseraient pas le faire. La Belgique est envahie, la voie vers Paris est ouverte. Joffre avait pourtant préparé un plan, le plan 17, qui intégrait la neutralité de la Belgique. Les Allemands ne pouvaient utiliser son territoire. Aussi a-t-il concentré ses forces dans l'Est, Belfort, Nancy, Montmédy, Bar-le-Duc. Il prévoit de couper en deux l'armée allemande, rééditant, en plus grand, la stratégie de Napoléon Ier à Austerlitz. Mais Alfred von Schlieffen, dès 1898, avait prévu lui aussi sa stratégie pour entrer en France. Modifié par von Moltke, le généralissime des armées allemandes, ce plan violait la neutralité belge, trompant du même coup Joffre et ses troupes. L'armée française, cependant, tente de faire face, malgré ses faibles effectifs déployés dans le nord. Le 13 août, le 33e régiment d'infanterie, qui compte dans ses rangs le lieutenant Charles de Gaulle, entre en Belgique. Le 15, ce régiment arrive à Dinan, la capitale belge du travail du cuivre, la Dinanderie, et s'engage sur le pont qui franchit la Meuse. Le lieutenant de Gaulle y est blessé. Transporté à Paris, il est opéré à l'hôpital Saint-Joseph. Le 20 août, les troupes allemandes entrent dans Bruxelles.
Le feu tue. Dès les premières semaines de la guerre, la France a perdu plus de 50 000 hommes. Les Allemands, beaucoup moins. Cela tient à la différence de tactique de combat. Les Français s'avancent vers l'ennemi, le fusil à la main, la baïonnette au canon, en terrain découvert, vêtus d'un uniforme qui comporte un pantalon rouge garance. Ce pantalon les fait aisément repérer par les Allemands qui, eux, se cachent dans les replis des terrains de combat et attendent les offensives françaises derrière leurs puissantes mitrailleuses. Les officiers français, qui ont surtout fait des guerres coloniales et croient obstinément que seule l'attaque est l'attitude la plus efficace, le repli n'est jamais envisagé, apprennent à leurs dépens, après des reculades successives, que le rouge est visible de loin, contrairement au kaki des Allemands. Cette constatation est alors résumée dans la formule « le feu tue ».
Pénétrant en Belgique, les Allemands pensent encercler les Français dans un vaste mouvement tournant. Si Joffre pense imiter Napoléon Ier à Austerlitz, ceux qui lui font face pensent, eux, reproduire à plus grande échelle Sedan, où dut se rendre Napoléon III. La Belgique franchie, ils approchent dangereusement de Paris. Le 2 septembre, ils sont à Senlis. La capitale n'est plus qu'à 45 kilomètres. Mais Joffre, sans perdre son sang-froid, organise la retraite et lance une contre-offensive du 5 au 12 septembre. C'est la bataille de la Marne. Gallieni a été nommé gouverneur de Paris. Il imagine alors un moyen pour conduire au plus vite quelques 10 000 soldats sur le front tout proche. Le transport par taxi. C'est ainsi que, réquisitionnés, les taxis parisiens transportent les troupes fraîches qui, avec les Britanniques, contribueront à la victoire de la Marne. Le 29 août, sur le front de l'Est, les Russes, malgré leur supériorité numérique, sont vaincus à Tannenberg. Les Allemands reculent vers l'Aisne, mais leur objectif est de s'emparer des ports du Pas-de-Calais. C'est aussi l'objectif des Français. Une course à la mer s'engage alors du 18 septembre au 15 novembre. Les cavaleries françaises et allemandes se battent d'abord sur la Scarpe, combat dans le style des siècles passés auquel va se substituer l'affrontement à la mitrailleuse, aux canons de gros calibre capables de lancer des obus de plus en plus gros et meurtriers. Foch tente ensuite de coordonner des attaques disparates, d'établir une stratégie qui ne va déboucher sur aucune victoire décisive. La course à la mer, qui représente une limite et non un point de départ pour l'Angleterre, est le dernier mouvement d'une guerre qui va s'installer dans les tranchées jusqu'en novembre 1918. Les poilus, des jeunes gens de 18. Les tranchées, creusées dans la hâte en plusieurs séries parallèles, elles sont reliées par des boyaux bordés de refuges précaires, éclairés de lampes à pétrole. Le soldat y vit dans une insécurité constante. Les sapeurs ennemis creusent parfois sous les tranchées et les boyaux des galeries où sont déposées des mines qui explosent. Dans les deux premières semaines, les lignes de tranchées sont si proches que les soldats des deux camps fraternisent, vite rappelés à l'ordre. La peur, le froid, la faim, la présence des rats, celle des cadavres qui se décomposent, parfois suspendus aux barbelés de protection. L'existence de ceux qui sont appelés les poilus, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps, les moyens ou l'envie de se raser, est terrible. Ces poilus sont des jeunes gens de 18 ans, des pères de famille, de toutes les catégories sociales et qui proviennent de toutes les régions. La guerre va embroyer près d'1,5 million en 4 ans.
Alain Fournier, tué aux Éparges. Dans les tranchées, des écrivains, des poètes. Charles Péguy, tué à Villeroy, près de Meaux, le 5 septembre 1914, alors qu'il criait aux hommes de sa compagnie d'infanterie « Tirez, tirez toujours !» Alain Fournier, l'auteur du Grand Mône, tué le 22 septembre 1914 à Saint-Rémy-la-Calonne, près des Éparges, dans la Meuse. Louis Pergaud, l'auteur de La guerre des boutons, tué en 1915. Blaise Cendrars, blessé en Champagne en 1915, amputé du bras droit. Guillaume Apollinaire, blessé à la tête et trépané. On trouve aussi Maurice Genevoix, Jean Giono, Louis-Ferdinand Céline, Georges Duhamel, Roland Dorgelès. Les peintres de Rhin, Il fait Verdun, La Somme, Le chemin des dames. Braque, qui est grièvement blessé le 11 mai 1915, trépané. Maurice Ravel, qui se bat à Verdun en 1916.